19h sur Bac FM, c'est l'heure de Prévence, votre podcast santé où on essaie de comprendre comment marche notre corps humain. Nous sommes tous et toutes addicts à quelque chose, en tout cas dans certaines mesures. Pour moi et pour beaucoup de jeunes, c'est sans doute le téléphone. Je ne vous dévoilerai pas mon temps d'écran, mais sachez que pour les ados, la moyenne est autour de 5h10. Pour d'autres, l'addiction est peut-être le chocolat, le sucre, l'alcool ou encore les jeux d'argent. Les femmes, les personnes précaires et les jeunes sont particulièrement touchés. Je rappelle que 55% des 18-25 ans présentent des troubles sur la santé mentale, ce qui favorise les addictions. Pour en parler avec nous, Isabelle Domanger, assistante sociale, chargée de prévention formation pour l'association Addiction France. Bonjour et bienvenue sur Bac FM, Isabelle Domanger.
Bonjour.
On va rentrer dans le détail de chacune des addictions une par une. Il y en a beaucoup, d'ailleurs on ne va pas avoir le temps de toutes lister en une émission. Mais avant ça, je voulais savoir s'il y avait des facteurs à risque qui nous permettaient de tomber dans l'addiction.
Oui. Alors, pour que l'addiction arrive, en fait, principalement, il faut la réunion de trois éléments. Généralement, on va dire que c'est un produit avec toutes ses spécificités, ses particularités, puisque chaque produit a un effet différent, a des risques différents. Donc, réunion d'un produit avec une personne en particulier. On est là aussi, hein, tous différents. Donc, ça va être les particularités physiques, psychologiques, voire même des fois psychiatriques. Les particularités biologiques aussi. On a tous globalement à peu près le même corps, mais il ne va pas non plus fonctionner de la même façon. Et du coup, dans un contexte particulier, il y a des contextes qui sont bien évidemment plus à risque. Des fois aussi, le contexte, c'est pas qu'un lieu géographique, ça peut être une situation, ça peut être également de l'entourage. Donc quand on a la réunion de trois éléments qui matchent en fait malheureusement ensemble, l'addiction a plus de risques d'arriver. Il y a des choses quand même assez particulières au niveau de tout ce qui est environnemental. C'est tout ce qui est contexte familial. Par exemple, quelqu'un qui a eu l'habitude dans sa jeunesse d'avoir des parents, des familles, des proches qui sont dans les consommations, il y a un risque que ce soit banalisé et que plus tard, du coup, ça engendre des consommations. Ça peut être un parent qui a consommé aussi pendant la grossesse, notamment, par exemple, la mère. Il peut y avoir comme ça des facteurs aggravants ou en tout cas, ça va augmenter les risques. Et puis, bien évidemment, les choses un peu basiques, hein, tout ce qui est une précarité financière, ça peut être un facteur aggravant. Le mal-être. Le mal-être, ça va être un élément très important.
C'est la question que j'allais vous poser pendant toute cette saison de prévence. On a beaucoup parlé de la santé mentale des jeunes, c'est un thème qui nous passionne. Les chiffres sont accablants. C'est un jeune sur quatre qui présente des risques suicidaires, pour ainsi dire. J'imagine que c'est des choses qui peuvent pousser à l'alcool, aux jeux d'argent, aux écrans ou à quelconque addiction.
Les jeunes sont encore plus vulnérables. Alors, pour plein de raisons différentes, c'est vrai que déjà, nous, on le constate au niveau de l'association, au niveau des personnes qu'on a en consultation. La Covid-19 n'a pas franchement aidé. Ça a changé énormément de choses. Et on voit beaucoup de jeunes qui, notamment, période charnière hein, quand même, où on sort de l'enfance, c'est le futur passage à l'âge adulte. Il y a énormément de chamboulements au niveau du rythme biologique. On découvre son corps, on doit s'approprier une nouvelle image. Il y a énormément de changements. On est en recherche de repères et effectivement, on va aussi tester ses limites. Dans toutes les conduites à risque qui existent, notamment au niveau des jeunes, l'addiction en fait effectivement beaucoup partie. Et par exemple, tiens, si je consomme, je vais montrer aux potes, par exemple, que tiens, je peux le faire. Ça peut être aussi, j'ai envie de donner telle image de moi, parce que certains produits aussi véhiculent certaines images. Donc, c'est vrai que la jeunesse est, oui, malheureusement, particulièrement vulnérable à ce niveau-là aussi.
Il y a beaucoup d'addictions que vous traitez dans votre association. J'en ai l'exemple sous les yeux. Je propose de commencer par l'alcool. Oui. Il fait chaud. En France, très très chaud, les terrasses rouvrent petit à petit. C'est l'occasion de commander une pinte sans doute le dimanche après-midi avec ses potes. Je rappelle que la consommation d'alcool est dangereuse pour la santé. Est-ce que l'alcool, c'est encore un vrai problème en France d'addiction? Je sais que les jeunes boivent un peu moins. Où on en est? Je ne sais pas si vous avez...
Oui, il y a effectivement une baisse de la consommation de l'alcool. On a malgré tout encore des chiffres assez hauts au niveau de ce qu'on appelle les API. Ce sont les alcoolisations ponctuelles importantes, alcoolisation massive en fait. Ça, on en a toujours. Le souci en fait au niveau de l'alcool, c'est que on peut entendre hein, dans nos proches, puis vous le disiez justement un petit peu, par exemple, tiens, une petite bière, ça va me désaltérer, ça va me faire du bien.
C'est tout l'inverse.
Ça désaltère dans le sens où, en fait, ça donne ce sentiment que ça nous rafraîchit. Le souci, c'est qu'en fait, par contre, ça déshydrate. C'est-à-dire qu'en fait, pour éliminer globalement à peu près, on va dire, 4 verres d'alcool standard, des doses standards, c'est les doses servies dans les bars, hein. C'est pas les doses maison plus généreuses, mais le corps, en fait, va avoir besoin de à peu près 1 litre d'eau. Donc en fait, alors, ça peut surprendre hein, souvent quand on entend ça, mais pour éliminer de l'alcool, eh ben, il faut beaucoup d'eau. Et du coup, si je ne bois pas suffisamment, bah, je peux avoir, par exemple, ça peut arriver des fois, lendemain de grosses fêtes, et bah, le gros mal de crâne. Parce qu'en fait, tout simplement, le corps est déshydraté, la gueule de bois. Donc, il faut faire attention aux mots. Ça peut désaltérer, donner ce sentiment que « Ah, je n'ai plus soif », mais ça déshydrate, en fait.
Vous donnez des conseils sur les différents documents de votre association, notamment demander à dormir sur place.
Oui.
C'est important, j'imagine, de ne pas prendre évidemment la route.
Tout à fait. Ça fait partie en fait des conseils qu'on appelle la réduction des risques et des dommages. C'est-à-dire que, par exemple, au niveau de l'association, on reçoit tout type de personnes qui n'ont pas les mêmes objectifs. Et ces messages-là, de conseiller de rester sur place, par exemple, de nommer un SAM, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas, ça fait partie des messages de réduction des risques. C'est-à-dire que si je ne veux pas changer ma consommation, pour plein de raisons différentes, hein, par exemple, elle me convient, à ce moment-là, on peut nous donner des conseils pour, ok, je ne bouge pas la conso, la quantité que je consomme, peut-être même je ne bouge pas la régularité, mais je change comment je consomme. Et le comment, en fait, peut aider beaucoup. Alors, la réduction des risques, c'est quand même un petit peu particulier. Il y a des gens qui pensent que ça peut, pour certaines choses, être de l'incitation à la consommation. C'est tout l'inverse, en fait. C'est donner des conseils, prévenir et peut-être, pour le futur, amener les personnes à réduire, voire à arrêter. Mais ça, voilà, c'est des petits conseils basiques qu'on peut tous appliquer, qui sont assez faciles à mettre en place.
Je citais les autres hein, que vous précisez, prévoir des préservatifs pour éviter tout comportement sexuel à risque, éviter les mélanges, donc alcool et drogue, et évidemment le 15, le numéro d'urgence. Est-ce qu'il y a des alcools, j'imagine selon le degré, un peu moins dangereux que les autres? Est-ce qu'on peut conseiller à l'alcoolique de manger, je sais pas, je dis une bêtise, hein, plus de mon chéri plutôt que de boire sa pinte de blonde?
Je dirais pas forcément qu'il y a un alcool vraiment plus dangereux qu'un autre, mais par contre, je donnerais le conseil d'être vigilant. Puisque notamment, alors vous parliez de différents types d'alcool, je parlerai de ce qu'on appelle les prémix ou les alcopops, ça peut avoir plusieurs noms différents. Ça va être en fait des boissons alcoolisées qui sont à peu près dans les 5-6 degrés, hein, comme une bière qui commence légèrement à être forte, avec des fois beaucoup de sirop, du sucre. Et ça, il faut être vigilant parce que, alors souvent, il y a des packaging très jolis qui attirent les jeunes, des noms très sympathiques. Mais du coup, avec le goût du sucre, on fait moins attention. Donc, voilà. Par exemple, ça, il faut être vigilant. Tout à l'heure, je parlais de dose standard. Plus un alcool est fort, bah, plus normalement, pour respecter la dose de bar, bah, moins vous allez avoir de quantité de liquide. Ça, du coup, des fois, c'est une notion qui n'est pas forcément si simple. Whisky, ça va être un alcool fort qui est à peu près à 40 degrés. Une dose de bar, dans une dose de bar, il y a 10 grammes d'alcool pur. Dans n'importe quel verre que vous prenez dans un bar, il y aura normalement 10 grammes d'alcool pur. Whisky, comme c'est fort, c'est 3 centilitres. La bière pas forte, 4-5 degrés, ça va être 25 centilitres. C'est pas la même quantité de liquide, mais parce que vous avez un alcool plus fort que d'autres. Donc l'idée, ouais, ça peut être d'essayer au moins déjà de respecter les doses de bar.
La France est un pays un peu particulier avec l'alcool. On sait qu'il y a beaucoup de pression sociale, notamment des jeunes qui ne boivent pas, qui se retrouvent sur une terrasse, qui tous leurs potes commandent une boisson alcoolisée. Et c'est vrai que après commander le sirop de fraise, c'est pas toujours facile. Est-ce que il y a une façon de lutter un peu contre cette espèce de pression sociale?
C'est vrai que ça, on le voit énormément. La pression des pairs, ça peut prendre énormément de place. Et ça peut être compliqué. Au niveau de l'image de soi, de l'image que je renvoie également aux autres, si j'ai pas tant confiance en moi que ça, oui, de dire non, ça va être très compliqué. Il y a des personnes qui peuvent dire « Bah ouais, mais tiens, tu peux dire t'as l'excuse, bah non, tiens, j'ai pas d'argent, ou j'ai pas envie d'avoir un problème avec le permis. » On peut toujours s'en trouver des excuses. Moi, je dirais attention à pas trop en donner d'excuses. Pourquoi? Parce que si, par exemple, je vous propose fumer, cannabis ou autre chose, peu importe, ou de l'alcool, vous allez m'en trouver plein des excuses. Le souci, c'est que moi, je peux les casser, toutes vos excuses. Je peux trouver des contre-arguments. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, j'en aurai ras-le-bol, que on trouve toujours quelque chose à me redire, à un moment donné, de guerre lasse, je vais peut-être céder, en fait. L'idée, c'est un petit peu ce qu'on appelle la technique de l'entonnoir, c'est dans un premier temps de dire non, de reformuler, hein, de reformuler, je dis non et je remercie. Si la personne, elle insiste, je dis non, je remercie. Si la personne insiste encore, je dis non, point. On n'a absolument pas à se justifier sur le pourquoi du comment. Un autre petit truc, parce que ça, c'est pas forcément si simple que ça à mettre en place, c'est d'essayer de travailler sur sa confiance en soi, être en capacité de dire non, et de se rendre compte, déjà aussi que, bah tiens, le regard des autres, ça va avoir un impact. Certaines personnes, bah, par exemple, elles vont choisir de fuir. Alors, ça peut être une solution temporaire, mais ça veut dire qu'on ne se confronte jamais à cette situation.
Un autre point que je voulais aborder avec vous sur l'alcool, et après on passera en revue d'autres addictions, c'est tout ce qui est autour des propos sexistes. Parfois on peut dire ah bah c'est bon, c'est pas un alcool pour les fillettes, bah, je prends une voix volontairement modifiée. Ou alors il y a aussi ce cliché, alors on sait pas trop à quel point il est vrai, de plus on est grand, fort, on tient mieux l'alcool que si on mesure 1m50. À quel point c'est vrai tout ça? Est-ce qu'il y a quand même un peu de sexisme là-dedans, je trouve?
Alors il y a effectivement du sexisme par rapport à ça, mais qui à la base part d'un élément important. En fait, hommes et femmes, nous ne sommes pas égaux par rapport à ça. Tout simplement parce que physiologiquement, nous ne sommes pas constitués de la même façon, dans le sens où, là je précise vraiment, je vais dire une généralité, mais de façon générale, les femmes, nous avons un taux de masse graisseuse qui est plus important. Ça remonte à il y a très longtemps, hein, Cro-Magnon. Mais du coup, cette graisse, ça nous sert encore, hein, mais à par exemple, quand il y a une grossesse, à l'époque de Cro-Magnon, si on était en période de famine, qu'il n'y avait plus rien à manger, bon les hommes, vous étiez censés aller chasser le mammouth et nous rapporter à manger. Maintenant, on a tout en supermarché ou ailleurs, mais si on revient à l'époque moderne, cette graisse, on l'a gardée, les femmes l'ont gardée, les hommes sont censés avoir plus de masse musculaire, de façon générale, et en fait, à corpulence égale et à quantité d'alcool égale consommée, une femme aura tendance à avoir un taux d'alcoolémie généralement plus élevé qu'un homme à cause de sa graisse, parce que la graisse retient davantage l'alcool dans le corps que les muscles. Mais je réinsiste, là c'est le principe général. Bien évidemment, une femme peut avoir un taux de masse graisseuse moins important qu'un homme. Ça dépend vraiment de la physionomie de chacun.
Une autre addiction que je voulais aborder avec vous, et là on est en plein dans l'actualité, c'est les jeux d'argent. La Coupe du Monde bat son plein, des grandes marques de paris sportifs font beaucoup d'argent. C'est prouvé, il y a plusieurs propositions de loi qui sont même débattues, notamment une socialiste, je crois, qui veut interdire les pubs de jeux d'argent entre 5 et 10 minutes avant le match et après. Les jeunes sont particulièrement touchés, pour le coup, par cette addiction des jeux d'argent. Alors, je parlais de la Coupe du Monde, mais ça peut être le poker, ça peut être le blackjack en ligne. Enfin, voilà, bref, il y a plein de jeux. À quel point c'est dangereux, ce genre de choses qu'on connaît un petit peu, peut-être moins que l'alcool, qui est plus ancien?
Alors, c'est dangereux. Alors, en particulier en ce moment, nous, Addiction France, au niveau de l'association, au niveau national, hein, on est vraiment attentif à ça. D'ailleurs, on essaie de militer pour qu'il y ait une loi spécifique qui soit votée, mise en place, un petit peu comme la loi Evin qui régit l'alcool et le tabac, enfin la publicité à ce niveau-là. Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément d'influenceurs qui sont sollicités par différents opérateurs, hein, qui s'occupent de tout ce qui est jeux d'argent et de hasard, qui vont surfer en fait sur des moments particuliers, sur leur image aussi, pour faire croire déjà à des mises très faciles, à un gain d'argent sans se donner trop de difficultés. Sauf qu'en fait, tout ça peut banaliser les jeux d'argent et de hasard. Alors, j'ai rien contre, hein, mais ce qui nous pose souci au niveau de l'association, c'est vraiment la publicité à ce niveau-là et comment c'est banalisé et comment, en fait, les opérateurs usent de plein de techniques différentes, des techniques commerciales. Hein. Effectivement, ils sont très doués là-dedans, mais pour inciter, pour minimiser, pour banaliser, pour donner l'impression d'un effet de groupe, avec des slogans extrêmement accrocheurs, avec aussi des propositions. Par exemple, si vous inscrivez à tel ou tel prestataire, bah tiens, on vous donne 150 euros. Oui, on vous le donne. Le problème, c'est qu'en fait, il y a un risque important que vous misiez ces 150 euros, alors vous gagnez, vous perdez, mais qu'à un moment donné, on ne peut pas gagner à vie. Hein. À un moment donné, on va perdre. Et le souci, il y a énormément plus de risques de perdre de l'argent que de gagner. Le problème, c'est que paf, on a été accroché. Parce qu'il y a des charges d'adrénaline, qu'il y a pas mal de choses qui vont nous inciter, qui vont nous valoriser, et un peu les mêmes principes effectivement que l'addiction de façon générale, le shoot de dopamine.
Vous parliez de la pub qui est à dénoncer. Moi, ce qui me surprend, c'est la facilité à quel point on peut parier. Fut un temps avant Internet où il fallait descendre de chez soi, mettre son manteau, aller au bureau de tabac pour prendre un ticket. C'est une suite d'étapes complexe. Maintenant, on rentre sa carte, on installe une appli et je pense qu'en 5 minutes, top chrono, c'est fait. Est-ce que c'est trop facile de parier ?
Oui, c'est trop facile. Et puis même s'il y a des garde-fous, hein, je mets un peu des guillemets, puisque normalement, je rappelle, hein, les jeux d'argent et de hasard, c'est interdit normalement aux moins de 18 ans. On le sait très bien qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent réussir à contourner ce verrou qui est beaucoup trop light, en fait. Le fait qu'il y ait Internet, développement, ça, formidable, effectivement, mais ça a multiplié cette facilité d'accession. En plus, bah, des fois, c'est vrai, il y a un effet convivial. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà eu, moi, ça m'est arrivé à Noël, d'avoir la petite enveloppe avec tous les jeux à gratter. C'est sympa, ça met un petit peu de fun. Et c'est pas le drame en soi. Mais c'est plein de petites choses comme ça qui peuvent, enfin qui plantent des graines et qui peuvent inciter à un moment donné à tomber là-dedans. Et on peut en revenir aux vulnérabilités qu'on a évoquées à un moment donné. Bah tiens, un petit coup de pas bien, ah bah tiens, ça va être mon refuge. Le souci vraiment de l'addiction, c'est que la personne va devenir prisonnière. Elle ne va plus réussir à gérer. Et ça, avec cette facilité au niveau des jeux d'argent et de hasard, bah ça, c'est devenu vraiment accru.
Comment on... Alors, même question que tout à l'heure, est-ce qu'il y a des conseils peut-être pour les gens qui sont peut-être en train de se rendre compte qu'ils ont mis des centaines d'euros dans la Coupe du Monde, au poker? Est-ce qu'il y a des conseils pour s'en sortir?
L'idée, c'est d'essayer de mettre en place des techniques qui vont nous permettre de faire en sorte que ça reste un plaisir. Ça peut être par exemple, tiens, je me mets une mise et j'essaye de me tenir à la mise, par exemple, je dis une bêtise, hein, je me mets, je sais pas, allez, 20 euros par semaine ou par mois, ou ce qu'on veut, mais enfin ce qu'on veut, non, pas trop non plus, mais de se mettre en tout cas, de se fixer une limite, par semaine, par mois, comme on veut. Après, l'idée, c'est d'essayer de faire en sorte que du coup, ça ne prenne pas trop de place. Si par exemple j'arrête certaines activités de la vie quotidienne, si ça commence à prendre de la place par exemple au niveau relationnel, je vois moins les amis, peut-être même au niveau de mon humeur, je suis plus irritable, là du coup tout ça, ce sont des signaux d'alerte. Et l'idée c'est pourquoi pas d'aller en parler à quelqu'un. Au niveau de l'association, nous on reçoit pas forcément que des gens qui sont vraiment dans une démarche de soins. Ça peut être juste, tiens, je passe un petit coup de fil pour me renseigner. Voilà. Il y a des personnes carrément qui vont se faire interdire de jeu. On a la possibilité de demander une interdiction de jeu qui est que pour quelques années. Alors, c'est principalement dans tout ce qui est casino. Pour certains sites et certains jeux, on peut le faire aussi sur Internet, mais ce n'est pas l'ensemble de tout ça. L'idée est, par exemple, quand ça ne va pas, de multiplier d'autres petites sources de plaisir et que ça, ce ne soit pas la seule solution.
La réponse, elle doit être politique aussi.
Je pense. Ah oui, clairement. Comme je vous disais tout à l'heure, on milite vraiment pour qu'il y ait une loi qui régisse davantage, qui encadre davantage, parce qu'il y a quand même des zones de flou, les jeux d'argent et de hasard. Parce que ça prend énormément de forme. Hein. Il y a les casinos, il y a tout ce qui est jeux à gratter. Et là, beaucoup, tout ce qui est paris en ligne, paris sportifs, poker, etc. Ouais, je pense que c'est indispensable, comme pour le tabac et l'alcool.
Une chose où le législateur a agi, c'est sur la pornographie. Une autre addiction, une interdiction théorique au moins de 18 ans a été appliquée, bien détournable de bien des façons que je ne détaillerai pas ici. C'est encore un échec de notre société, l'accès facile à la pornographie. Parfois, sans le vouloir, on peut cliquer sur une pub sur un jeu en ligne et atterrir sur des sites... comme ça.
Je ne sais pas si j'aurais dit le mot échec, mais effectivement, en tout cas, c'est encore une problématique. Ça, par contre, c'est certain. Normalement, enfin, à peu près, hein, a été calculé en moyenne le premier âge de visionnage de films ou de contenu à caractère pornographique pour les jeunes en France. C'est entre 9 à 11 ans. Donc, quand on en arrive effectivement à ces âges-là, oui, on se dit que là, il y a un vrai problème. Et comme vous le disiez, il y a des garde-fous là aussi au niveau de l'âge. Malgré tout, ça peut être contournable et ça ne concerne que certains sites, pas l'intégralité des sites internet avec ce genre de contenu. Donc échec, j'aurais pas forcément dit échec parce qu'on continue quand même au niveau, alors un peu au niveau politique, mais je dirais aussi sur le terrain, les gens de la prévention, comme on le fait nous au niveau d'Addiction France, et il y a d'autres associations qui le font également, on essaye voilà, de donner les moyens aux jeunes de faire leur choix éclairé. Donc on travaille toujours à ça, mais en tout cas, c'est toujours une problématique qui prend beaucoup de place, effectivement.
Un rapport parlementaire est sorti il y a quelques années sur la pornographie qui s'appelait L'enfer du décor, où les députés ont interrogé plein d'acteurs et d'actrices du milieu, acteurs dans les films, mais aussi réalisateurs, producteurs. Et ça dévoile un patriarcat décomplexé, où les hommes sont maîtres et dans les films, c'est très hétéronormé, c'est-à-dire que la femme est souvent en position de soumission, l'homme est vu comme dominant. Est-ce que ça peut poser des problèmes aussi d'un point de vue réel? Est-ce que un jeune homme, par exemple, peut reproduire des situations sexistes et patriarcales qu'il a vues dans ses films?
Alors ça, on le voit de plus en plus, même au niveau du discours de certains jeunes qu'on rencontre, nous, en prévention. Il y a une banalisation de beaucoup de choses, une normalisation de ça, de la violence. Et comme je vous le disais tout à l'heure, l'adolescence, c'est un adolescence, et je dirais jeune âge adulte, c'est un âge qui est quand même assez compliqué, puisque on est aussi donc en plein développement, on trouve des repères, et si comme repère j'ai ça, j'ai ce que je vois dans du contenu porno, bah je vais intégrer ça. Donc il va y avoir des conséquences durables dans mon relationnel, dans ma vie affective, dans ma vie sexuelle, dans aussi tout ce qui est notion de consentement. On voit que le consentement, il y a du boulot encore. Hein. Effectivement, c'est une notion qui est très difficile. Moi, j'ai déjà entendu des jeunes dire « Bah non, mais c'était un nom qui voulait dire oui. » À quel moment on apprend que c'est un nom qui voulait dire oui? Bah alors, il n'y a pas que tout ce qui est film ou contenu porno, hein, y a pas que ça. C'est un ensemble de choses.
Discours masculiniste, notamment, beaucoup d'influenceurs.
Tout à fait. Dans le cinéma, au niveau du consentement, il y a plein de films très connus, certains même que j'aime beaucoup, hein, que j'apprécie, mais où on voit que, on va voir qu'une femme, elle va attendre d'être prise avec force. Et quand, qu'est-ce qu'elle aime ça? Bah, en fait, non. Mais du coup, tout est romancé, tout est scénarisé, effectivement, il n'y a plus rien de naturel. Mais on en vient à croire que c'est normal et qu'on doit fonctionner comme ça. Donc ça va biaiser les repères, les bases, du coup, pour les jeunes. Et ça peut avoir des conséquences, effectivement, durables.
Comment on fait pour s'en détacher?
Déjà, l'idée, c'est de faire un peu le point déjà au niveau des écrans. En parler aussi, tout simplement. En parler à des adultes, même si la thématique, elle n'est pas si simple. Hein. C'est vrai qu'on n'a pas forcément envie d'en parler, par exemple, aux parents. Ça peut être, par exemple, je sollicite l'infirmière scolaire. Ça peut être, ça certains jeunes le font déjà sur nos actions de prévention, mais nous solliciter, nous, après les interventions, on est soumis au secret professionnel. Donc, si j'ai un jeune qui me livre l'utilisation qu'il fait de tout ce qui est film porno et tout le reste, on peut en parler et essayer de comprendre certaines choses. Souvent, quand il y a, on bascule vraiment, par exemple, jusqu'à l'addiction, c'est qu'il y a eu un ou plusieurs traumas de vie, multiples, hein. C'est pas forcément des traumas sexuels d'ailleurs, mais l'idée est d'essayer de pouvoir en parler, du coup, de ce qui s'est passé, de en parler soit aussi à des psychologues, ça peut être ça. Hein. Je vois qu'il y a mes collègues aussi, par exemple, de la maison des ados qui peuvent recevoir les jeunes. Ça peut être ça. C'est en tout cas trouver un ou plusieurs adultes de référence qui, du coup, pourront peut-être m'aiguiller. Et puis, ça peut être d'essayer de voir au niveau des critères où est-ce que j'en suis, quelle place ça prend. La place, c'est vraiment ça qui est important. Et de regarder, est-ce que j'ai encore du plaisir à regarder ça ou pas. L'idée n'est pas de dire « Bouh, le porno, c'est mal !» Non, c'est pas ça. C'est qui le visionne, déjà pas les mineurs, hein, normalement, dans l'idéal, et puis quelle place ça prend. Donc l'idée, surtout si on parle là des jeunes, ça va être de faire attention et de mettre des filtres parentaux, notamment.
Les témoignages qui reviennent, c'est que c'est devenu un acte presque, presque quotidien. C'est dans la journée, c'est inclus dans l'emploi du temps, en fait. Mais je pense que ça marche avec plein d'addictions, d'ailleurs.
Tout à fait.
À 17h30, on prend un verre, on fume une clope. Comment on fait pour lutter contre cette espèce de ritualisation, cette espèce d'habitude de l'addiction?
Alors ça, ce que vous évoquez, en fait, ça va être un des trois éléments de l'addiction. L'addiction, il y a trois types, en fait, de dépendance. Il y a la physique, ça c'est lié, en fait, à la libération de dopamine dans le corps. L'aspect psychologique, en gros, je deviens accro aux effets positifs que ça me procure. Et ce que vous évoquez, ça va être l'habitude comportementale environnementale. À mon sens, personnellement, je trouve que c'est la plus terrible, parce qu'effectivement, ça veut dire changer des habitudes de vie, changer des fonctionnements. L'idée, c'est d'essayer de mettre en place des nouvelles habitudes. C'est pas forcément si simple. Hein. Ça peut être, par exemple, pour tout ce qui est alcool, je vais essayer de changer de boisson, mais de s'y tenir dans le temps. Je dis pas que ça va marcher à chaque fois. Pour le tabac, par exemple, ça peut être, je vais me mettre à fumer de l'autre main. Ça peut être ça, parce qu'on va essayer de mettre en place, d'inclure des petites choses assez déplaisantes. Mais déjà, la chose de base, il faut s'en rendre compte. Il ne faut pas être dans le déni. Or, on a beaucoup de personnes qui sont dans le déni. Et ce que vous disiez, oui, cette question de régularité, ça va être un des critères qui doit nous mettre la puce à l'oreille. Mais ce n'est pas le seul critère. Il y a plein d'autres critères pour l'addiction.
Y a plein de sujets que j'aimerais aborder avec vous, malheureusement le temps tourne. J'ai une dernière question quand même sur l'addiction du tabac, mais ça peut être relié à d'autres addictions également. Y a une espèce de glamourisation dans la pop culture du tabac. Je pense au cinéma de Tarantino où toutes les femmes, notamment Uma Thurman, fument beaucoup et c'est vu un peu comme classe ou élégant. Tout à l'heure, vous évoquiez aussi la pornographie sur ce sujet-là. Est-ce qu'on vit dans une société qui glamourise le danger ?
Je pense, oui, en partie, oui. Parce que on est beaucoup, je trouve, dans cette société où on est dans la valorisation de l'individu. Et où on manque de repères, bah, du coup, il faut en trouver. Et où, dans tout ce qui peut être même aussi donc cinéma, télé-réalité également, on va nous en balancer beaucoup des repères. Du coup, on va être vu comme quelqu'un bah, peut-être de... je sais pas, ça peut être de fort, de beau, de... Quelqu'un qu'il va falloir regarder, quelqu'un qu'il va falloir suivre. On va peut-être nous-mêmes devenir un nouveau modèle par rapport aux autres. Si les autres nous regardent, si les autres nous suivent, si les autres nous envient, si en plus je le fais, parce que si j'ai des comportements, alors je mets vraiment des guillemets, hein, rebelles comme ça, de fumer ou d'autres choses, je vais être vue, je vais être regardée, ça va valoriser mon ego. Et voilà, alors j'insiste, hein, ça c'est une opinion très personnelle, hein, mais dans moi je trouve cette société très valorisante où le narcissisme, pardon, il prend une place mais juste monumentale, oui, ces éléments-là, ces consommations-là vont avoir un impact majeur et peuvent attirer vraiment beaucoup.
Je pense à un autre personnage, là, quand vous parlez, celui de Logan, hein, Wolverine dans les X-Men, qui est une sorte de personnage cynique, dépressif, qui boit beaucoup, qui fume beaucoup. Mais bon, quand même, il est classe quand il boit, il est classe quand il fume, il y a une façon de boire, de fumer. Comme si tout était fait pour romantiser un peu cette espèce de danger.
Oui, et il y a un côté attachant, du coup. On a un peu envie d'être comme Logan, il est sympa, c'est un vilain, enfin c'est un gentil vilain ou un vilain gentil, hein, peu importe.
Une espèce de figure d'anti-héros.
Exactement.
Quand on est ado, ça parle beaucoup. Hein,
bah, il y en a plein d'autres, hein, regardez. Alors, si, quoique, il peut fumer un peu, Deadpool.
Oui.
On est toujours un peu dans le même univers, mais oui, ça marche. Et on aime bien les aimer, on aime bien les détester. Ce côté badass. Voilà.
C'est ça.
Mais badass, ouais, il y a un peu de risque, mais pas trop. Le souci, notamment avec le tabac, donc de façon générale, au niveau de la prise de risque, il y a plusieurs types de prise de risque, mais il y a deux éléments primordiaux au niveau de la prise de risque. Ça va être les risques immédiats et les risques différés. Risque immédiat, je prends un risque, je peux voir les conséquences tout de suite. Les risques différés, par exemple le tabac, ça peut être d'autres consommations, mais là, on va se centrer sur le tabac, et ben, j'ai des risques. Mais par exemple, les risques pour ma santé au niveau, je sais pas, cancer, je le risque pas tout de suite, je le risque bien après. Et du coup, ce risque différé fait que pour beaucoup de personnes, on va avoir tendance à minimiser le risque. Si je pose la question, ça m'arrive, en action de prévention, de demander, vous préférez quoi ? Alors, c'est qu'un exemple, hein. Mais vous préférez fumer 2 paquets de tabac par jour pendant 15 ans ou alors sauter en parachute ? Alors là, c'est très varié les réponses. Il y en a qui préfèrent fumer, il y en a qui préfèrent sauter. Et du coup, ils ont du mal des fois à repérer ce risque immédiat et différence avec risque différé. Et on voit que pour plein de choses comme ça, comme tout est banalisé, normalisé dans cette, je dirais, la pop culture, bah oui, du coup, on va avoir encore plus cette tendance à ne pas se rendre compte des difficultés. Et encore plus pour les jeunes qui sont en recherche d'images, d'identification.
Et on espère que dans le prochain Marvel, Wolverine mangera une assiette de légumes.
Oui.
Merci beaucoup Isabelle Demanger d'avoir été avec nous sur Bac FM. On aurait pu aborder beaucoup d'autres sujets. J'espère vous revoir en septembre à la rentrée.
Volontiers.
Merci beaucoup. Encore une fois, je rappelle que vous êtes assistante sociale chargée de prévention formation dans l'association Addiction en France. Comment on fait pour vous contacter à l'asso ?
Alors, tout simplement par téléphone. On est joignable au 03 86 61 56 89. On a également un site internet au niveau du national où on poste beaucoup d'informations. Il peut y avoir des chiffres, il peut y avoir aussi d'autres coordonnées puisque nous avons des consultations jeunes consommateurs qui sont, en plus d'être gratuits pour tout le monde, qui sont anonymes sur Nevers, Château-Chinon et Clamecy. Donc on appelle le standard et on répond très rapidement.
C'est la fin de ce Prévence, chers auditeurs. Merci de nous avoir suivis. Émission évidemment à retrouver en replay www.radiobacfm.fr. Bonne soirée à toutes et à tous sur votre radio préférée, pop rock metal.